Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Au cours de l'émission précédente, nous avions abordé les commencements des quatre évangiles. Et nous avions évoqué ceux de Marc et de Matthieu. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre entretien avec Luc et Jean. Nous allons aborder d'abord le commencement de l'évangile de Luc. Avant de débuter son évangile proprement dit, Luc a tenu à expliquer brièvement sa méthode de travail dans une préface que nous ne relirons pas ici. Il y mentionne sa collecte de documentation et son enquête auprès de témoins oculaires, lui qui n'a pas connu Jésus. Souvenons-nous qu'il est aussi l'auteur des Actes des Apôtres en lien avec l'apôtre Paul. Père Alain, peut-on considérer Luc comme un véritable historien ? Y a-t-il un lien entre son évangile et les Actes des Apôtres ?
Alors le lien, il est peut-être à rechercher. C'est surtout le fait qu'il ait opté pour avoir deux récits parallèles, je vais en dire un mot. Mais c'est vrai que Saint-Luc était un historien qui avait une bonne connaissance de l'histoire et qui écrivait en grec, dans un très bon grec, on voit bien, c'est une langue assez élégante, hein, et il a chaque fois adressé son évangile et les actes au même personnage, pour bien montrer qu'il y avait une unité, c'est le fameux Théophile à qui il s'adresse. Alors on s'est posé des questions de savoir est-ce que c'était une figure historique réelle ou est-ce que c'était une figure symbolique pour marquer cette unité des deux récits, mais c'est évidemment l'indice qu'il veut donner, ses codes un peu de lecture, qui veut bien montrer qu'il a travaillé comme un historien, il a fait des recherches, et effectivement, c'est assez précieux. Il s'inscrit, ça ne veut pas dire qu'il a tout tiré de ses propres recherches, puisque on l'a évoqué, je crois, mais on peut peut-être le redire ici, il a puisé beaucoup d'éléments dans l'évangile de Marc, puisque une grande partie de son évangile, on pourrait dire presque une moitié, est inspirée par Marc. Alors d'autres parties, il a d'autres éléments que Marc n'avait pas et qui sont intéressants bien sûr après à confronter avec Matthieu entre autres.
Alors après cette petite introduction méthodologique de la main de Luc, nous allons commencer à regarder le commencement de son évangile qui correspond au chapitre 1 à 3, qui relate les circonstances de la naissance et de l'enfance de Jean-Baptiste et de Jésus. Chapitre 3, vous l'avez dit, rejoint l'évangile de Marc. Nous ne relayerons ici que les versets 26 à 38 du chapitre 1 dans la Bible de Jérusalem. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange: Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Que pouvez-vous nous dire, Père Alain, sur ce récit très connu de l'Annonciation ?
C'est certainement, au niveau littéraire et théologique, bien sûr, et spirituel, un passage magnifique, évidemment, cette beauté de l'ange Gabriel, qui est l'ange des visites, qui vient demander à une jeune femme de devenir la mère du Seigneur. C'est véritablement quelque chose d'assez unique. C'est un passage qu'on peut interpréter de différentes façons. J'y vois, on pourrait en dire peut-être plus par ailleurs, mais j'y vois un lien avec le premier texte de la Genèse. Vous rappelez, on a évoqué la Genèse en montrant que Dieu associait l'homme à son histoire, c'est-à-dire que Dieu demande à l'homme, faisons l'homme à notre image. Il y a une participation de l'homme à la création, et on a le sentiment que cette participation à la création, à la révélation, Dieu la poursuit. Il a besoin d'une jeune femme pour que son projet se réalise. Il aurait pu trouver d'autres moyens de le réaliser. Ça, c'est le mystère de Dieu. Non, il passe par une jeune femme qui va être, au fond, celle par qui le Seigneur va nous rejoindre. Et donc, cette association d'une jeune fille à la naissance de Dieu, c'est véritablement un signe très très fort de la tendresse de Dieu pour les hommes qui est passée par une humaine, une femme qui est une fille du monde et par qui, au fond, le Seigneur nous est donné. Et donc, c'est évidemment quelque chose de très solennel avec ici l'association de Zacharie qui lui aussi, avec Élisabeth, donne naissance à un enfant. C'est spécifique à Luc que nous avons cette caractéristique et ce lien entre Jésus et Jean-Baptiste va être développé tout au long du récit d'enfance avec une priorité bien sûr à Jésus qui est le Seigneur et Jean-Baptiste étant celui qui est la voix qui va proclamer au fond la venue du Messie. Mais c'est évidemment à la fois en accord avec les autres évangiles au moment du baptême où Jean-Baptiste apparaît. Ici, il apparaît dès l'enfance et c'est une marque au fond. Quand on a grande figure, on a besoin de remonter au plus haut qu'on en puisse et c'est là la venue du Seigneur et de l'ange du Seigneur pour annoncer la venue du Seigneur qui va venir, ce qui sera Jésus-Christ.
Alors on a souvent désigné l'évangile de Luc comme l'évangile de l'enfance. Il aurait recueilli des informations et des confidences de la bouche même de Marie. Que sait-on à ce sujet ?
J'aurais envie de vous dire, on ne sait rien, parce que ça n'est pas dans les textes. Hein. Ça, c'est la tradition, c'est les légendes. On va imaginer effectivement que Luc aurait été quasiment un peintre, qu'il aurait pu peindre le visage de Marie, la mère de Jésus. Encore une fois, ça n'est pas possible de le tirer de l'évangile, puisqu'il y a une discrétion dans les évangiles, il y a un secret, il y a un silence que les commentateurs, surtout populaires, vont essayer de remplir à travers donc cette idée d'une proximité, d'une communication. Mais ce qui est sûr, c'est vrai qu'on a le sentiment que sa façon de présenter la venue de Jésus, c'est à travers la médiation de la mère de Jésus, de Marie. Alors que dans Matthieu, c'est à travers Joseph que Jésus nous est donné. Donc il y a deux lectures différentes, avec d'ailleurs des désaccords au plan historique, ce qui montre bien qu'il ne faut pas que nous cherchions des coïncidences absolument mathématiques, historiquement, sur les détails. Les commencements, c'est ce que l'on écrit en dernier. C'est pas ce qu'on écrit en premier. Et donc, les récits d'enfance, c'est toujours les récits d'abord de grands héros. C'est toujours les héros ont droit à des récits d'enfance. Et c'est surtout à la fin que l'on introduit cette dimension. C'est la partie, on pourrait dire, la moins fortement historique et la plus fortement théologique, cette partie-là.
Il y aurait beaucoup à dire, mais nous allons maintenant passer à l'évangile de Jean. Le prologue de Saint Jean est un grand texte très connu. Dans le cadre de votre nouveau commentaire de l'Évangile de Jean, paru en 2011 chez Bayard, Père Alain, vous avez proposé votre propre traduction du texte grec. Nous allons en relire ce qui concerne Jésus au chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, le Logos. Et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Dès le commencement, il était tourné vers Dieu. Par lui, tout est venu, et sans lui, rien n'a été de ce qui fut. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Le Verbe était la lumière véritable qui brille pour chaque homme venant dans ce monde. Il était dans le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom ne sont pas nés du sang, ni de la volonté charnelle, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe a pris chair, il a planté sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Gloire qu'il reçoit du Père, comme Fils unique engendré, rempli de grâce et de vérité. Par Moïse, la loi a été donnée par Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, Dieu, lui qui est dans le sein du Père, l'a raconté. Père Alain, que pouvez-vous nous dire brièvement sur ce travail de retraduction du texte ?
C'est vrai que j'ai eu l'occasion de traduire l'Évangile de Jean au moins deux fois. La première fois, c'était lorsque nous avons publié la Bible Bayard. J'ai travaillé avec Florence Delay, qui, elle, était là en tant qu'écrivain. Et moi, je lui ai fait une traduction littérale pour qu'elle puisse trouver peut-être des mots plus adaptée à la langue, puisqu'elle était une écrivaine très connue. Et là, dans mon commentaire, j'ai refait ma traduction, et donc avec mes mots que j'ai pu trouver, mais qui coïncident grosso modo avec ce que nous pouvons dire. C'est une langue pas difficile, la langue de Saint Jean. C'est un grec très, très, très fluide, on pourrait dire, dans ce prologue, évidemment, est aussi magnifique comme tous les commencements. Au fond, nous avons trois commencements différents qui se rejoignent, c'est-à-dire un retrait de plus en plus large. C'est-à-dire là, on remonte à l'origine du monde. Avec Jean, c'est vraiment l'apothéose. On ne peut pas aller plus loin. Au commencement était le Verbe. Et donc ça, c'est le commencement, c'est-à-dire le commencement du monde, d'une certaine manière, avec la création du monde.
Alors justement, ce commencement qui est le premier mot de cet évangile, je vous repose un peu la même question que dans la dernière fois. Faut-il y voir également un parallèle avec le commencement de la Genèse, le Bereshit hébraïque ?
C'est tout à fait vraisemblable, d'autant plus que quand on regarde le texte en hébreu ou en grec, le texte de la Genèse et le texte grec, dans les deux cas, il n'y a pas d'article. En hébreu, on dit « Bereshit », alors il aurait fallu dire « Bereshit » dans le commencement. C'est dans un commencement. Et Jean, de cette manière, a fait la même faute, « Enarché », sans mettre l'article. On se demande si ce n'est pas par choix de vouloir reproduire à la fois le premier texte et en même temps de nous dire aussi autre chose, c'est-à-dire de nous introduire au commencement peut-être le plus grandiose, qui est le commencement de la venue de Dieu parmi nous. Donc il y a un lien bien sûr entre les deux textes, et ici c'est le Christ qui vient nous donner une plénitude de sens que le premier texte ne pouvait pas nous donner. Ça c'est une lecture chrétienne. Les Juifs, bien sûr, ne seraient pas d'accord avec nous dans ce commentaire, mais pour nous, ce commencement, au fond, fait boucle avec le commencement de la Genèse, avec les mêmes mots, peut-être la même faute d'orthographe, d'une certaine manière, la même faute de syntaxe, en ne mettant pas d'article, c'est assez, assez magnifique. Et puis, la conclusion, qui dit dans Saint Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils, nous, nous l'a révélé. C'est-à-dire, désormais, nous avons accès même à ce qui précède la création par le Christ, qui nous dévoile le mystère intime de Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu.
Vous nous aviez dit dans une précédente émission que se révéler, c'était d'ailleurs de là que venait l'exégèse.
Bien sûr, c'est le mot en grec, c'est exégésis, c'est le mot exégèse, effectivement. C'est Jésus a fait l'exégèse de Dieu, si on voudrait traduire littéralement.
Alors ensuite, Jean désigne d'emblée le Christ comme le Verbe de Dieu, le Logos. Ouais. Pourquoi a-t-il choisi ce terme ?
Oh, c'est un terme qui circulait sans doute dans le monde. C'est la parole, ça peut être traduit de différentes manières. Hein. C'est la parole, c'est le Verbe absolu, c'est la parole. L'évangile va revenir après sur cette parole. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire, il est à la fois celui qui parle de manière la plus magnifique, mais il est non seulement celui qui sait parler, qui peut parler, qui parle de Dieu, mais il est la parole même, il est le Verbe de Dieu. C'est pas facile à traduire. Hein. Il est possible, ce mot existait dans la philosophie grecque et l'auteur l'a repris. Il a fait, c'est le dernier, n'oublions pas, il connaissait les trois autres évangiles. Il savait comment les trois autres avaient commencé. Mais là, il est allé plus haut et en même temps, il y a un petit clin d'œil que peut-être vous n'avez pas souligné dans la mesure où vous n'avez pas lu ce petit passage, lorsqu'il est dit, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. C'est dans le prologue. Et donc, on s'est demandé, que vient faire Jean-Baptiste, dans le prologue qui nous place à la hauteur du mystère de Dieu. Tout à coup, on introduit un homme envoyé de Dieu. Il n'y a que de lui qu'il est dit qu'il est envoyé de Dieu. Et je pense que il y a plusieurs hypothèses possibles. Une des hypothèses des auteurs, bon, on peut discuter, c'est que peut-être que quand Jean a écrit son évangile, il savait qu'il y avait les autres évangiles. Il savait que ça commençait par Jean-Baptiste dans la plupart des récits. Et donc, il a en quelque sorte gardé cette trace de Jean-Baptiste. Et en même temps, il en a fait la figure unique au fond du mystère du salut, puisqu'il est même introduit dans le passage qui ne parle que du mystère de Dieu, avant même qu'on dise et il devint homme, il s'est incarné. Et ça, et Jean-Baptiste va réapparaître dans les versets suivants.
Alors ensuite, il y a le verset 14, qui est considéré habituellement comme la fine pointe du prologue, et qui est même repris dans notre credo. « Et le Verbe a pris chair, il a planté sa tente parmi nous. » Que nous dit-il ce verset sur le mystère de l'incarnation ?
Ah ben, il dit totalement l'incarnation. Et en grec, on utilise le parfait pour marquer la ponctualité. C'est-à-dire quand on dit « et le Verbe devint chair », on utilise un temps ponctuel, comme si on lui disait, si on pouvait, mais on ne peut pas, à tel jour, à telle heure, il est né. Et c'est le temps où il a pris chair. Il est devenu un humain. Il est devenu un homme. Et on peut remarquer que, dès ce passage, le Verbe devint chair, le Verbe disparaît. On ne trouvera plus jamais dans l'Évangile ce mot. Il n'y a plus que le corps du Christ, le cœur physique du Christ, le Christ qui naît, qui se nourrit, qui mange, qui a faim, qui boit, qui a soif, c'est désormais l'homme que nous verrons. Mais cet homme, il ne faudra jamais oublier qu'il est l'incarnation du Verbe de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire.
Alors il y a un mot, moi, qui me touche, c'est « il a planté sa tente ». Le mot « tente » évoque le nomadisme, évoque le Jésus qui n'avait pas de pierre pour reposer sa tête, qui était toujours sur les routes. Est-ce que c'est ça que Jean veut évoquer ?
Ben je pense, oui. C'est une manière de dire à la fois une présence passagère, d'une certaine façon, une présence qui ne va pas durer très longtemps. Enfin, il va durer une trentaine d'années. Ce n'est pas beaucoup. Et quand on regarde même la vie publique de Jésus, elle dure 2 ans et demi. Quelle brièveté pour celui qui était la parole de Dieu. On s'est souvent demandé pourquoi n'a-t-il pas commencé avant, mystère de Dieu, 2 ans et demi. Mais ça commence dès la naissance du Christ, l'incarnation, le Verbe devint chair. Vous voyez la solennité de cette expression, c'est désormais celui-là qui nous accompagne et qui va être l'homme dans son humanité. On ne verra plus que l'humanité, mais au cœur même de l'humanité, c'est le Verbe de Dieu qui parle, qui agit, qui se révèle en vérité.
Merci Père Alain Marchadour. Nous sommes déjà au terme de cette deuxième émission, mais bien évidemment que nous reviendrons sur l'évangile de Jean et sur les autres évangiles dans de prochaines émissions. Merci de nous avoir fait partager vos connaissances. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.